Vous êtes sur RTL.
18h. Tel soir avec le duo Marion Calé, Julien Cellier. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures pour faire le point, bien entendu, sur l'ensemble de l'actualité de la journée. Avec à la une cette question, mais que se passe-t-il au fond de la mer Baltique, au large du Danemark? Les gazoducs entre la Russie et l'Europe fuient, l'eau bouillonne, des détonations ont été entendues. L'Ukraine accuse Moscou d'avoir fait exploser les pipelines. Les autres titres de l'actu, Marion.
C'est plus que jamais une affaire hors norme, l'affaire Péchier du nom de cet anesthésiste de Besançon déjà mis en examen pour 24 empoisonnements dont 9 mortels. Désormais, 8 nouveaux cas suspects vont être étudiés. À suivre aussi cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris concernant le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse qui dénonce des accusations calomnieuses. Et puis, peut-on jouer au foot avec le Rassemblement National? Les députés de gauche refusent et déclare forfait pour un match de l'équipe de l'Assemblée.
À 18h15, une invitée remarquable. Elle a survécu aux talibans et à 3 tentatives d'assassinat. Zarifa Ghaffari a été la plus jeune mère, M-A-I-R-E, d'Afghanistan. Un livre et un film la racontent, elle sera avec nous. Dans un quart d'heure, la brigade RTL. Nouveau vaccin Covid, nouvelle campagne dès lundi, on vous explique tout. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, RTL a tenté de prendre le bus à Paris. Alors nous avons attendu quasiment une heure son passage. Un quart des bus ne passe plus dans la capitale. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'info. Autrement avec Cyprien Signy et toute la compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, technologie de pointe, fuite et sabotage. On va vous plonger à l'intérieur des gazoducs de la Baltique dont vous parliez à l'instant. Au menu également, le kebab qui valait des millions, les dodanes qui sont américains et l'astuce qui a permis de récupérer l'obélisque de la Concorde.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet, Aurélie Herbemont. Le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Agité et pluvieux sur les trois quarts du pays.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Il a déjà été qualifié par certains de tueur en série en blouse blanche. Ce soir, les soupçons pesant sur l'anesthésiste de Besançon s'alourdissent encore un peu plus.
Frédéric Péchier était déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Mais la justice s'intéresse aujourd'hui à de nouveaux cas suspects. Bonsoir Samuel Goldschmidt.
Bonsoir.
Vous êtes à Besançon pour RTL. 8 nouveaux cas suspects vont être étudiés.
Oui, c'est cela. Les expertises ont pris un retard énorme, notamment parce que le dossier est littéralement gigantesque. Une liste de 66 événements indésirables graves à la clinique Saint-Vincent ont donc été réexaminés. Et en plus des 24 pour lesquels le docteur est déjà mis en examen, l'équipe de médecins pointe 8 nouveaux cas problématiques, avec notamment la présence d'adrénaline, en plus des autres substances médicamenteuses déjà pointées dans d'autres dossiers suspects. D'ici à 5 mois, le juge d'instruction devrait recevoir la totalité des expertises. Le procureur indique qu'il souhaite auditionner le docteur Péchier à bref délai pour décider ensuite de le mettre en examen ou pas sur ces nouveaux cas. En tout cas, on en est au total à 32 cas problématiques assimilables à des empoisonnements, dont 13 mortels pour une affaire qui a démarré en mars 2017, il y a 5 ans et demi.
Cette affaire Péchier est toujours plus hors norme, donc Samuel Goldschmidt à Besançon pour RTL.
RTL Soir.
Une image à présent qui fait la une de Paris à Moscou. Cet œil blanc bouillonnant au cœur de la mer Baltique, conséquence des fuites sur les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Europe.
Nous sommes là au large du Danemark. Bonsoir Valentin Boissé.
Bonsoir.
Que se passe-t-il précisément?
Eh bien, 3 fuites ont été détectées. 2 sur le gazoduc Nord Stream 1, puis une fuite sur le Nord Stream 2. Cela signifie que de grandes quantités de gaz se déversent actuellement dans la mer Baltique. Depuis le ciel, on voit donc ces grands yeux de bouillonnement qui forment de grands yeux blancs. L'un d'eux mesure plus d'un kilomètre de large et ses fuites se déroulent sur les zones maritimes de la Suède et de la Finlande.
Est-ce qu'on connaît, Valentin, l'origine des fuites? Est-ce que c'est un sabotage?
Alors, pour répondre à cette question, il faut regarder les données sismiques. Elles révèlent 2 puissantes explosions sous-marines à proximité de ces fuites. Une première dans la nuit de dimanche à lundi, l'autre hier soir, et les instituts sismiques norvégiens et suédois les attribuent à des détonations, je cite, soudaines, maîtrisées et a priori délibéré. Soupçon donc de sabotage, mais de qui? L'Ukraine accuse la Russie d'un acte terroriste. Moscou se dit inquiet et soupçonne lui aussi un sabotage. Quoi qu'il en soit, le Danemark est inquiet et a relevé ce soir sa vigilance autour des infrastructures stratégiques.
Des gazoducs qui fuient, est-ce que ça veut dire qu'on va être encore un peu plus privé de gaz cet hiver ?
Alors, pas forcément, hein, car ces deux gazoducs-là ne nous délivraient de toute façon pas de gaz. Nord Stream 2 n'est jamais entré en service suite à la guerre en Ukraine et Nord Stream 1 a été fermé il y a déjà quelques semaines. Le risque, en revanche, c'est que le prix du gaz ne s'envole encore un peu plus. Ce soir, la Maison-Blanche affirme qu'en cas de problème d'approvisionnement, elle soutiendra l'Europe.
Les explications de Valentin Boissé pour RTL. En Ukraine, le oui donné en tête dès cet après-midi par la Russie dans les référendums d'annexion contestés, notamment par l'Europe, Bruxelles qui promet de sanctionner les organisateurs. Le patron de l'OTAN assure ce soir que ces référendums sont une violation flagrante du droit international. Autre scrutin passé, celui-là, la présidentielle en France, 5 mois après. On apprend aujourd'hui qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris concernant la campagne de Valérie Pécresse.
Enquête pour détournement de fonds publics. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Alors, la justice cherche à savoir si la candidate des Républicains a utilisé l'argent de sa région, l'Île-de-France, pour mener sa campagne.
Oui, au départ, c'est l'écologiste Julien Bayou, qui est aussi conseiller régional francilien, qui accuse Valérie Pécresse d'avoir utilisé les moyens de la région pour faire campagne. En avril, en pleine campagne présidentielle, il dépose un signalement auprès du parquet de Paris, dans lequel il pointe ce qu'il appelle un mélange des genres. Il évoque notamment la contribution d'une agente de la région, directrice de cabinet de Valérie Pécresse, qui aurait, dit-il, travaillé pour la campagne sur son temps de travail et qui l'aurait aidé à rédiger son programme. Pour accuser, il s'appuie entre autres sur les propos d'une conseillère régionale LR qui avait claqué la porte en mars en dénonçant une campagne hors sol. Alors l'entourage de Valérie Pécresse assure de son côté que tout a été fait dans les règles et dénonce les méthodes calomnieuses des Verts. L'ex-candidate va d'ailleurs déposer plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Mais l'un de ses conseillers soupire, on en a connu des boules puantes pendant la campagne, mais on pensait que c'était fini.
Les précisions de Marie Mollet pour RTL.
C'est un coup de gueule, il l'a lui-même qualifié d'ailleurs ainsi ce matin, les mots d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, sur les mises en retrait des députés Julien Bayou et Adrien Quatennens, le premier soupçonné de violence psychologique sur son ex-compagne, le second pour violence conjugale. Le garde des Sceaux s'inquiète de la création d'une justice, je cite, de droit privé.
Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres et en particulier pour la justice que je veux défendre.
Les mots d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, ce matin au micro RTL, Dan Le Hénaff.
Allez, votre journal continue dans un instant et prière de prendre votre mal en patience parce qu'à Paris, un bus sur quatre ne passe plus à cause notamment d'un manque de conducteurs, mais aussi d'un trafic d'arrêt de travail. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir avec ce bonnet d'âne pour Paris, la capitale qui fait figure de cancre en matière de transport public.
Précisément pour son offre de bus, les opérateurs et notamment la RATP se sont fait tirer les oreilles ce matin par la région. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Il faut dire que les chiffres sont frappants. Depuis la rentrée, 26%, un quart des bus ne passent plus dans Paris et sa petite couronne. Pourquoi ? Bien principalement pour cause de manque de chauffeurs.
Oui, et ce soir il en manque encore 800. Et pourtant la RATP a bien tenté d'attirer les potentiels candidats grâce à une hausse des rémunérations. Comme le détaille Jean-Yves Leclerc, le directeur financier du groupe.
Nous avons procédé en juillet à une hausse significative de salaire, puisqu'on a augmenté de 2% la valeur du point de la RATP. Et par ailleurs, nous avons distribué des primes ciblées sur les plus bas salaires de l'entreprise.
Mais cela ne suffit pas. La région Île-de-France vient d'annoncer qu'elle offrirait 2000 euros à tout nouveau conducteur de bus. Elle lance également un appel aux jeunes retraités qui voudraient revenir pour compléter leur pension.
Alors, autre raison plus surprenante, mais révélée tout à l'heure, Arnaud, c'est l'existence d'un trafic d'arrêt de travail à la RATP. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, mais cela concerne en fait tous les métiers à la RATP, pas que les conducteurs. Valérie Pécresse, qui gère Île-de-France Mobilité, a dénoncé.
Un vrai abus de certificat maladie. La RATP a compté des centaines semaines de faux arrêts maladie et est en procédure de licenciement avec 150 agents. Il faut que le gouvernement mette fin à ce fléau des faux arrêts maladie. Il y a un vrai trafic qui s'organise.
Et le nombre d'arrêts maladie a pratiquement doublé par rapport à 2019. Et la RATP a décidé il y a quelques mois de renforcer les contrôles qui aboutissent parfois au licenciement.
Les explications d'Arnaud Touche. Alors ça, c'était le constat, mais vous nous connaissez sur RTL. On est allé vérifier sur le terrain et on a attendu très longtemps le bus en proche banlieue. Révélation tout à l'heure dans les dessous de l'actu. C'est dans une vingtaine de minutes dans RTL Soir.
La RATP visée par un appel à la grève jeudi, hein, grève interprofessionnelle pour les salaires et contre la réforme des retraites. Trafic annoncé normal pour le métro et le RER A. Perturbation en revanche sur le RER B et le bus. 3 trains sur 4 et 3 bus sur 4 annoncés. Enfin, dans l'hémicycle, comme sur une pelouse, pas question de s'afficher côte à côte à la veille d'un match caritatif de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Les députés insoumis et socialistes déclarent forfait.
Bonsoir Olivier Bost.
Bonsoir.
Ils ne veulent pas jouer avec les députés du Rassemblement national.
Et oui, certains ne voulaient déjà pas leur serrer la main. Et bien maintenant, les députés et les filles ne veulent pas taper dans le ballon, porter le même maillot et partager les vestiaires avec les députés de Marine Le Pen. Pourtant, ils avaient dit oui et tout cela semblait bien léger. Cette équipe de football de l'Assemblée nationale ne joue quasiment jamais. Et là, il s'agit de se faire battre avec les honneurs par d'anciens champions de football, des vrais hein, comme Christian Carambeu, Robert Pires ou Sidney Govou. C'est un match caritatif pour une bonne cause, mais la bonne cause ne vaut pas la bonne conscience. La gauche déclare donc forfait, pas très fair-play, estime le capitaine de l'équipe, le Renaissance Carl Olive. Pour lui, les étiquettes doivent rester dans les maillots.
Olivier Bost, chef du service politique et qui fait des dégagements parfois sur la pelouse.
Qui lorgne sur le poste de chef de service des sports, on peut le dire, Olivier. Voilà.
C'est
votre rêve ultime. Merci Olivier, merci Marion. Le temps demain, Peggy vous écoute.
Avec pas mal de pluie, mais on en a besoin. Alors, sauf entre la Basse-Normandie et les frontières du Nord le matin et au nord de la Seine, avec des éclaircies. Et sur le pourtour méditerranéen, également avec un beau soleil dans l'après-midi, mais encore pas mal de vent. Ailleurs, un ciel chargé entre nuages, éclaircies, des averses, comme ce qu'on a connu aujourd'hui. Et on aura une zone bien pluvieuse le matin entre l'Alsace, les Alpes, en allant vers le centre-Val de Loire et le Nord-Bretagne. Et ces fortes pluies, elles vont se décaler dans la journée entre le Massif central et la Franche-Comté. Il va neiger sur le nord des Alpes dès 2300 mètres. Et puis la Corse, ça restera chargé à l'ouest avec des averses orageuses en journée et encore beaucoup de vent, des rafales encore jusqu'à 110 km/h. Les températures resteront encore fraîches, globalement comprises entre 14 et 16 au nord, 18 et 20 au sud, 25 à 28 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL maintenant va tout vous expliquer sur la nouvelle campagne de rappel contre le Covid alors qu'une huitième vague semble s'amorcer. Nouvelle campagne dès lundi avec des vaccins nouvelle génération. On va poser trois questions à Odile Pouget. Bonsoir Odile.
Bonsoir.
Lundi, qui pourra prétendre à ces doses ?
Eh bien les plus fragiles, donc tous les plus de 60 ans, mais aussi, quel que soit leur âge, toutes les personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, celles qui souffrent de diabète par exemple ou d'hypertension, les femmes enceintes également, les immunodéprimés, leur entourage ainsi que le personnel soignant. Pour les plus âgés, les plus fragiles, ceux qui ont déjà eu leurs 4 doses, ils peuvent bien sûr en faire une 5e à condition de respecter les délais. 3 mois après leur dernière injection pour les plus de 80 ans, 6 mois pour les autres. Et puis pour ceux qui ont eu le Covid, c'est 3 mois minimum après la dernière infection.
On sera vacciné où cette fois-ci ?
Chez son pharmacien, chez son médecin, infirmière, sage-femme et dans les quelques centres de vaccination, mais il y en a très peu d'ouverts actuellement. La campagne va démarrer dans un premier temps avec 576 000 doses livrées aux professionnels de santé d'ici lundi prochain. Et puis d'ici novembre, ce sera 12 millions de doses qui seront disponibles.
Dites-nous, ces nouveaux vaccins, ils ressemblent à quoi ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, ce sont en effet des vaccins nouvelle génération. Il y en a 2 qui ont été mis au point par Pfizer, l'autre par Moderna. Ils ont la particularité de cibler à la fois la souche originelle du virus et les variants d'Omicron. Ce sont des vaccins modifiés qui vont développer dans l'organisme des anticorps les plus adaptés aux sous-variants qui circulent aujourd'hui.
La Brigade RTL avec Odile Pouget ce soir. Merci beaucoup Odile. RTL Soir qui va revenir dans quelques secondes avec un témoignage très puissant. Zarifa Ghaffari sera notre invitée. Elle n'a même pas 30 ans et cette frêle jeune femme a été la plus jeune mère MIRE de province en Afghanistan. Elle a échappé à 3 tentatives d'assassinat. Un livre et un film racontent son combat. Restez à l'écoute, c'est vraiment une leçon de courage qui vous attend juste après ça sur RTL. À tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir et je vous invite maintenant vraiment à tendre l'oreille parce que notre invité ce soir est l'incarnation des mots courage et bravoure. Notre invité est afghane, en 2018 à 24 ans seulement. Elle devenait la plus jeune mère d'une province dans son pays. Elle a ensuite échappé à des tentatives d'assassinat avant de fuir lors de la prise de pouvoir des talibans il y a un an. Bonsoir Zarifa Ghaffari.
Thank you so much.
Merci beaucoup.
Vous racontez dans un livre Zarifa chez JC Lattès et dans un mois un documentaire sur votre parcours sortira sur Netflix, produit par Hillary Clinton. Parlons de votre mandat maintenant. Maire de la province de Wardak, province très conservatrice. Alors, ce n'est pas une élection comme en France pour le maire. Vous êtes choisi sur un concours que vous réussissez brillamment, mais vous devez attendre ensuite 9 mois pour être confirmé. Et il y a des manifestations avec des hommes armés pour protester à ce moment-là contre votre nomination.
Oh, yeah. Protests against me.
Oui, les manifestations contre moi, j'ai réalisé qu'en fait c'était un grand nombre d'hommes, forts, des hommes plus âgés également, qui avaient dépensé beaucoup d'efforts et d'énergie au lieu de le faire dans quelque chose de productif. Ils mettent tout cet effort, cette énergie contre moi, une enfant encore que j'étais à 24 ans. Certains auraient pu être mon grand-père. Ils me combattaient en disant que je n'étais pas musulmane, en disant que j'étais un agent étranger, en me donnant tous les noms possibles et imaginaires, certains vulgaires.
Dans cette province, vous aviez installé déjà une station de radio, malgré les menaces. Une radio pour les femmes, avec des auditrices qui vous appelaient en cachette de chez elles. Qu'est-ce qu'elles vous racontaient, ces auditrices ?
Une des conversations que nous avons eues, et je ne l'oublierai jamais, c'était une jeune fille qui appelait lors de l'émission. Et un jour, elle nous a appelés après le programme au même numéro. Elle m'a dit, je ne vais plus appeler parce qu'elle allait se marier. Et j'ai dit, d'accord, eh bien, chanceuse, avec qui allez-vous vous marier? Et elle m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui je vais me marier. Et ce qui était encore plus frappant, c'était qu'elle n'était pas sûre qu'elle aurait la liberté de pouvoir continuer à utiliser un téléphone portable. Et donc ça, c'est une conversation qui pour moi est restée dans mon cœur, dans mon esprit.
Vous étiez mère, vous étiez militante pour les droits des femmes, et donc vous dérangiez, et on a essayé de vous tuer. 3 tentatives d'assassinat, vous les racontez précisément dans votre livre. La première d'ailleurs est effrayante. Le gaz est ouvert quand vous rentrez dans votre appartement et vous prenez feu.
Le feu, à chaque fois que je m'en rappelle, je suis choquée de voir que je suis encore en vie.
I was in fire.
Mais oui, j'ai pris feu.
The fire was in my feet, so I was
les flammes rongeaient mes pieds, mes jambes. J'ai essayé d'éteindre les flammes avec mes mains, et donc mes mains ont également été brûlées. Mais lorsque j'étais à l'hôpital, après 10 jours, mon pouce a pu être libéré. J'ai pu utiliser mon téléphone. Et lorsque j'ai ouvert mes réseaux sociaux, Facebook, j'avais été taguée dans des dizaines de centaines de publications Facebook où ou mes opposants écrivaient que j'avais été brûlée dans, alors que je faisais la fête avec des hommes, ou que j'avais été brûlée alors que j'étais sous. Et c'est le seul moment qui m'a vraiment brisée, qui m'a fait éclater en sanglots parce que j'étais tellement triste. Mais en général, chaque attaque m'a rendue plus forte, plus franche. Je sais que cela m'arrive parce qu'on veut me faire taire.
Vous avez effectivement été attaquée dans une voiture. On vous a aussi tendu une embuscade avec un lance-roquettes, vous le racontez, sur la route et une mitrailleuse. Et ce jour-là montre très bien tout ce qui ne fonctionne pas en Afghanistan. Vous êtes attaquée à coups de lance-roquettes à 50 mètres d'une base militaire. Et on ne vient pas vous aider.
You know, which really was breaking me out in that time, especially during this attack.
M'a vraiment brisé, c'est ça. J'étais tellement près de cette base militaire. Et d'abord, personne ne m'a aidé, premièrement. Et deuxièmement, ce sont les mêmes personnes de la base militaire qui ont essayé de faire croire que je mentais, qu'il n'y avait pas eu d'attaque.
Vous vous en êtes sorti. Mais un peu plus tard, votre père est assassiné devant chez lui. Vous écrivez dans le livre, c'est la partie de mon histoire que je ne peux pas raconter sans pleurer.
Oui, lorsque je parle de mon père, les larmes coulent. Perdre mon père, c'est le plus grand drame de ma vie. Avec mon père, j'ai perdu toute ma famille.
Yeah, it's always so hard. But as
c'est
I say that this something
encore très
too.
Difficile.
The loss of my dad.
Donc la perte de mon père.
That revenge game.
Ne m'amènera jamais à vouloir revanche, ne m'amènera jamais à l'heure de prendre des décisions pour mon pays, pour mon peuple. La mort de mon père ne sera pas prise en compte parce que c'est une peine privée.
Vous avez quitté l'Afghanistan il y a un an, quand les talibans ont pris le pays, et vous racontez le jour de la prise de Kaboul. Une vague de panique s'empare de la capitale. La ville s'est métamorphosée en quelques heures seulement.
Kaboul, was no more
Kaboul,
that same Kaboul
n'était plus Kaboul.
That same day, that just
le
same
même
day,
jour, hein, le même jour, tout a fermé. Les rues étaient silencieuses, plus personne dans la rue déserte. Et la peur, l'horreur, le silence avait tout envahi dans la ville. Le seul bruit qu'on entendait avait lieu autour de l'aéroport, avec des coups de feu, des cris, des pleurs, les talibans, les forces étrangères qui faisaient ce brouhaha, et puis des hélicoptères. J'avais des appels de mes sœurs, de ma mère à chaque instant. Et à un moment donné, j'ai décidé de transférer ma famille. La promesse que j'avais faite à mon père de prendre soin de sa famille. Et je suis contente parce que j'ai pu tenir cette promesse faite à mon père. Ma famille va bien, elle est en sécurité. Mon objectif, mes rêves n'ont pas changé. Donc je retourne à ma mission et je continue d'y travailler.
Merci Zarifa Ghaffari d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Merci de nous avoir raconté votre histoire qui est aussi celle de millions d'Afghanes. Votre livre Zarifa est publié chez Lattès et le documentaire Netflix In Her Hands sort dans un mois. Merci beaucoup.
Thank you so much.
Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
Et dans quelques secondes, l'info continue dans RTL Soir. Il y aura vos dessous de l'actu. Tiens, on va vous emmener sur ces lignes RATP où les bus ne passent plus faute de chauffeur. RTL a attendu très 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 longtemps le bus aujourd'hui en proche banlieue parisienne, vous l'entendrez. Et puis laissez-vous tenter dernière parce que Marilyn Monroe débarque sur Netflix. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée, 18h30.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Si vous avez raté l'excellent journal de Marion Calais. Si vous allumez tout juste la radio, elle se charge de vous rappeler les trois grands titres de l'actualité à retenir.
8 nouveaux cas suspects d'empoisonnement, dont 4 mortels. Nouvelle expertise annoncée aujourd'hui dans l'affaire Péchier du nom de l'anesthésiste de Besançon. Il était déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Kiev accuse Moscou. Washington se dit prêt à aider l'Europe. Le Danemark n'exclut pas un sabotage après la détection de fuites sur les gazoducs Nord Stream qui relie la Russie à l'Europe. Fuite détectée au cœur de la mer Baltique. Et puis le basket, ce sera donc la Chine que la France affrontera en quart de finale du mondial en Australie. Ce sera jeudi matin.
Et le temps, demain, Peggy ?
Demain, encore pluvieux, Julien, sur l'ensemble du pays, alors sauf au nord de la Seine et près de la Méditerranée. Des averses soutenues le matin de l'Alsace aux Alpes jusqu'au Nord-Bretagne. L'après-midi, ces fortes pluies vont glisser entre le Massif central et la Franche-Comté. Il va neiger sur les Alpes du Nord dès 2300 mètres et beaucoup de vent sur la façade atlantique, la Méditerranée et la Corse. Tout ça sous des températures quasi stationnaires, 14 à 16 au nord, 18 à 20 au sud, 25 à 28 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant de ce chiffre. 26% des bus ne passent plus à Paris et en proche banlieue. Un quart du service non assuré. La faute à une pénurie des chauffeurs et à un trafic d'arrêt maladie. La région a donné l'alerte ce matin. Bonsoir Julie Brault.
Bonsoir.
Alors vous l'avez constaté hein, sur une ligne à Bagnolet, donc tout près de Paris. Vous avez voulu prendre aujourd'hui pour RTL le bus numéro 76 et vous avez attendu longtemps ou même très longtemps.
Oui, et je n'étais pas la seule. Hein. Près de l'abri de bus, 17 personnes patientaient à côté de moi. Et après 20 minutes d'attente sous la pluie, un groupe de collégiennes a tout simplement baissé les bras.
On n'a pas 27 minutes à attendre pour un bus.
En fait, vu qu'on a un cours, on préfère y aller à pied parce que sinon ça va prendre trop de temps et sinon on va arriver en retard.
Et vous faites ça souvent ? Ça vous arrive souvent ces derniers temps ?
Oui. Par exemple, ce matin, bah, il était tellement plein, on est parti à pied parce qu'on était en retard.
Et j'aurais dû les suivre, hein. Les jeunes filles ont fait le bon calcul, 25 minutes de marche à pied au lieu de 53 minutes d'attente pour enfin monter dans le bus 76.
Alors il y a ceux qui rebroussent chemin et puis il y a les passagers qui n'ont pas le choix et qui doivent attendre.
Oui, comme Jalila, 63 ans, chariot de course dans une main, canne dans l'autre, elle peine à se déplacer, elle a donc passé une bonne partie de son après-midi à attendre le bus.
J'ai sorti faire une petite course, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Il y en avait 40 minutes, l'autre il y avait 60 minutes. Normalement, ça dure même pas 2 heures, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et regardez quelle heure il est.
Oui, ça vous prend une demi-journée pour faire des courses.
Pour faire une petite course, demi-journée. Normalement, à la marche, si je pouvais marcher, c'est 20 minutes.
Voilà, des trajets à rallonge, des heures d'attente, des bus bondés depuis le mois de septembre. C'est le quotidien forcé de nombreux usagers, car pour se déplacer dans Bagnolet, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. En tout cas, il n'y a ni métro, ni RER, ni tramway.
Les dessous des bus qui ne passent plus en région parisienne. Julie Brault dans le numéro 76 à Bagnolet, donc pour RTL en Seine-Saint-Denis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Et on va parler cinéma maintenant dans Laissez-vous tenter dernière avec notre spécialiste. J'ai nommé Stéphane Boutsock qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir.
Avec un film événement à partir de demain sur Netflix. Son titre Blonde. Il nous raconte la vie tragique de Marilyn Monroe.
Alors là, tragique, je peux vous dire, vous êtes assez loin de la réalité du destin chaotique de Norma Jean Baker. Fille, je vais vous faire la liste. Hein, d'une mère schizophrène qui l'abandonne. Actrice débutante passée par des photos dénudées révélées par le film Niagara en 1953, sous-payée jusqu'au bout, maltraitée par les hommes, c'est peu de le dire, qui va chercher en fait toute sa vie l'homme qui remplacera son père absent, absolument pas prête à assumer le mythe Marilyn, et cette femme mourra tragiquement en août 62 à 36 ans seulement d'un abus de médicaments et d'alcool, en tous les cas selon la version officielle.
C'est un sacré personnage à incarner, un sacré rôle à endosser, qui est celle qui incarne Marilyn Monroe dans Blonde.
Alors je vous la présente, elle s'appelle Ana de Armas, comédienne cubano-espagnole de 34 ans. On l'a vue récemment dans Mourir peut attendre, le dernier James Bond, ou dans À couteau tiré, c'était aussi avec Daniel Craig. Eh bien elle est hallucinante. Alors attention, non pas qu'elle soit le sosie de Marilyn, on est loin de ça, elle ne lui ressemble pas trait pour trait, mais elle s'approprie littéralement le personnage, c'est une incarnation. Dans ses traumatismes, ses doutes, ses peurs, les violences dont elle est victime, la scène, il y en a une seule, avec le président Kennedy, est presque insupportable. Bref, Ana de Armas est devenue Marilyn.
Je ne savais pas grand-chose de Marilyn. J'avais vu quelques-uns de ses films, donc j'ai dû accomplir un énorme travail d'apprentissage et de découverte pour faire sa connaissance et surtout la comprendre, ressentir de l'empathie, me connecter avec elle. Ses douleurs, ses traumatismes. Si vous mettez de côté le fait qu'elle était une star de cinéma, c'est d'abord une femme comme moi, même âge, même métier. Je savais en m'engageant dans ce projet que je devais garder l'esprit ouvert et affronter des choses inconfortables et sombres qui me rendraient vulnérable. Mais c'est là où j'ai trouvé le lien avec cette personne.
Ana de Armas, la révélation, ou plutôt la confirmation d'une grande actrice à l'affiche de Blonde d'Andrew Dominik. On devrait reparler d'elle dans la course aux Oscars qui va donc bientôt débuter. Le film est à découvrir à partir de demain sur Netflix. On le recommande pas tout à fait aux jeunes spectateurs, disons.
Blonde sur Netflix à partir de demain. Merci beaucoup Stéphane Woodstock de nous avoir présenté ce film et également Ana de Armas. On va retenir ce nom ce soir sur RTL. La suite, c'est On défait le monde dans RTL Soir, les 20 minutes d'info autrement avec le trio Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
On va revenir sur ces fuites sur deux gazoducs au fond de la mer Baltique entre la Russie et l'Europe. Mais au fait, un gazoduc, ça se pose comment au fond de l'eau? Est-ce que ça peut se saboter puisque c'est l'hypothèse la plus probable? Est-ce que c'est protégé? Amis curieux, restez à l'écoute, on plonge tout au fond de la mer, juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. It's about damn time.